Session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 4 juillet 1996, première conférence.
J'espère que vous allez rêver sur l'induction. C'est comme ça qu'on fait un travail nocturne qui nous aide beaucoup et qui nous dispose par l'imagination. En y pensant, pour essayer vous compreniez mieux. Chaque fois que je découvre une vérité, chaque fois que je tends vers la vérité, mon intelligence progresse. Je m'affine dans mon intelligence.
Yeah.
jaillissement d'amour, jaillissement d'intelligence. Et mon âme est présente dans ma contemplation. Et elle reflète celui que je contemple. Mon âme est présente dans mon amour d'amitié. Et elle reflète l'amour de l'ami. Elle en vit. C'est ça qui est si étonnant dans cette induction de l'âme. Si vous ne regardez que l'aspect logique, comment je suis obligé de découvrir une source d'unité et de diversité. C'est intéressant de saisir le nœud par lequel je passe du visible à l'invisible. Le multiple, je le vois. L'unité est au-delà du multiple. Et comme l'unité est présente dans le multiple, il faut poser cette source cachée d'unité. Et c'est vrai, l'âme est présente dans la diversité. L'âme est présente dans l'unité. Et elle saisit cette unité. Saisir l'induction au plan logique, c'est très bien, mais c'est pas ça qui est important. C'est par la finalité. Pourquoi ce besoin de remonter à la source? Pas le comment, mais pourquoi je remonte à la source? Pour découvrir ce qu'il y a de si vital en moi. Et cette connaissance de mon âme m'aide à remonter à la source, à découvrir la source. Mais la source, je l'atteins d'autant mieux que je vois tout le cheminement que j'ai fait et surtout toute la montée que j'ai réalisée pour découvrir cette source. C'est très important cela, de comprendre ce côté de profondeur de l'âme et ce côté affectif de l'âme. Mon âme, je ne la découvre que quand je l'aime. Alors ne disons pas que c'est une connaissance subjective. Non, elle est objective, mais affective. Et c'est vrai, connaître l'âme uniquement comme un principe logique que je suis obligé de poser, c'est pas la vraie connaissance de l'âme. La vraie connaissance de l'âme, c'est par la présence affective de ce qui me permet d'avancer toujours vers ce pourquoi je suis fait. Et de découvrir alors ma capacité d'être en lien avec celui que j'aime, celui qui donne un sens à ma vie, ma finalité. Mon comportement, c'est très bien, mais mon comportement ne me donne jamais la signification profonde de mon âme et donc de ma vie. Et cela, je ne peux l'atteindre qu'en l'aimant. Oui, je crois qu'il y a perpétuellement ce flux et le reflux. La connaissance du comportement, de sa complexité, de ses possibilités de freiner, d'arrêter, de me replier sur moi-même. Me replier sur moi-même ne me donne pas la vraie. moment de l'induction, mais la finalité de l'induction. Être en présence de celui qui est source de tout mon être, de celui dont je dépends. Et comprendre que je suis capable d'être en sa présence. ceux qui normalement devraient penser et être capables d'aimer, affirmer que l'âme n'existe pas, qu'il n'existe qu'un réseau de relations artificielles et qu'il n'y a rien de secret dans l'homme, qu'il n'y a rien de secret dans la réflexion que l'homme fait, dans la recherche de la vérité. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire que l'âme, par elle-même, parce qu'elle est source de vie et que la vie est immanente, l'âme, par elle-même, se dévoile à elle-même. Et que plus j'avance dans la recherche de la vérité, plus je découvre la profondeur de l'âme. Vous voyez, dans cette recherche de l'âme, la connaissance affective joue un très grand rôle, comme dans la découverte de Dieu. On a ramené cette connaissance affective à une connaissance logique. C'est Occam qui a fait ça. C'est Descartes qui a fait ça. Et la plupart des hommes aujourd'hui restent dans cette connaissance logique. Et c'est pour cela que l'ordinateur a tant de succès. Instrument merveilleux au plan logique. Mais il y a un danger. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et on doit comprendre cela. On doit comprendre la qualité de ce serviteur, la qualité de cet instrument. Mais on doit comprendre aussi son danger de séduction. Parce que c'est un résumé. Vous voyez, c'est mimique. rien. C'est un mot qu'Aristote a inventé. Alors, à ce point de vue-là, il a le cachet aristotélicien. Même si Sartre l'emploie. Vous voyez, d'Aristote à Sartre, ce petit mot a fait beaucoup de chemin. Alors, de temps en temps, il s'est nettoyé, de temps en temps, il s'est sali. C'est normal, ça. Et quand Sartre l'emploie, je sais pas s'il le comprend. Je sais pas. Il faudrait étudier très près ça pour voir s'il le comprend. Et le coincer au bon endroit. Alors, ce mot, je l'écris au tableau. Parce qu'il faut tout le temps y revenir. En grec. Puisque c'est Aristote qui a inventé ce mot. Tout. Je traduis en latin. Parce qu'il a d'abord été traduit en latin. Quid erat esse. Alors, je modernise ce mot. Quod quid erat esse. C'est assez long. À partir de lundi. Quid itas. Et on traduit en français quid ite. Vous voyez, de là, alors, c'est mimi. C'est pas très bien l'origine. Quod quid erat esse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui n'existe pas avant Aristote. Aristote a inventé deux mots. Quidité, et puis ce mot qui est encore plus extraordinaire, c'est pour l'acte. Alors, je ne le prends pas ici parce que ça va vous troubler, mais c'est aussi un autre mot, et le latin n'a pas su. Le latin a pris actus et a bloqué deux mots qu'Aristote avait distingués. Energeia, entelegeia. Entelegeia, là vous traduisez en français, entelegie. C'est affreux. Entelegie. Ça c'est. Alors employez plutôt le mot grec, c'est plus distingué. Et ça va mieux quand intelligeia, c'est-à-dire être dans l'acte, être celui qui est dans sa fin. Quand on est dans sa fin, on jouit, on est heureux. C'est ça être heureux, c'est vivre de sa fin. Il n'y a rien au-dessus. Alors intelligeia, laissons ça de côté. Voyons ici. Quod, quid, erat esse. J'aime de faire ça. Le tien du do enein. Do enein, le fait d'exister. Et dans le fait d'exister, quid, ce qui était, ce qui demeure. Qu'est-ce qui demeure en vous? Vous existez. Vous êtes une réalité humaine. Qu'est-ce qui demeure en vous? Tienne. Ce qui demeure. C'est bien l'intelligibilité foncière de ce que vous êtes, homme. Votre individualité qui se manifeste par vos cheveux. Catastrophe. Vous attrapez une maladie, les cheveux tombent. Est-ce que vous demeurez? Oui, mais les cheveux non. Votre santé, elle ne demeure pas. Vous êtes corruptible. Mais il y a quelque chose qui demeure. tienne votre quiddité. La quiddité, c'est l'intelligibilité foncière de ce que vous êtes. Alors, mais quiditas, essence. Très, très facilement, on dira quiddité, c'est l'essence. C'est pas vrai. La quiddité, c'est l'intelligibilité profonde de ce qui est. L'intelligibilité profonde de ce qui est. Regarde donc, mon intelligence est capable de saisir l'intelligibilité profonde de toutes les réalités, de tout ce qu'elle connaît. Elle laisse tomber les choses secondaires. Votre manière d'avoir une chevelure. C'est évident, pour le lion, c'est très important, c'est comme ça qu'on distingue les lions de l'Afrique et les lions de l'Asie. Ils n'ont pas la même chevelure, mais leur quiddité est la même. Leur essence est la même. Vous voyez, il y a un lien entre les deux. Mais quiddité regarde l'intelligibilité, ce que mon intelligence est capable de saisir de la réalité. Et essence regarde la détermination. Essentielle. Donc, c'est bien la quiddité. Puisque l'intelligibilité profonde d'une réalité, c'est son essence, sa détermination essentielle. Alors, Aristote dit, la quiddité du corps, c'est l'âme. Je me souviens, je faisais un séminaire à Fribourg, sur ce passage d'Aristote, et il y avait pour la première fois un grand d'Espagne, il s'appelait du nom de Saint-Dominique, au moins du nom de famille, un grand d'Espagne, et il était très fier, surtout en face d'un dominicain, hein, vous comprenez, et il faisait un doctorat de sciences biologiques à Genève. Alors quand il a entendu que Aristote disait que la quiddité du corps humain, c'est l'âme, je l'ai vu blêmir. Alors il dit, mais là, qu'est-ce que c'est que ma science biologique? On m'a jamais parlé de l'âme. On l'a laissé cacher. Qu'est-ce que c'est que l'âme, dit Brigitte? Et c'est vrai. On fait toute la science du corps et du corps vivant sans parler de l'âme. Alors Aristote s'est complètement mis le doigt dans l'œil. Il n'a rien vu. Il s'est trompé. Est-ce que c'est Aristote qui a raison? Et c'est la science moderne qui ne veut pas regarder l'âme. Ou c'est parce que la méthode scientifique l'interdit de découvrir l'âme. Et donc, il ne va pas jusqu'au bout. Et c'est vrai. La philosophie de l'homme veut connaître l'âme. Et par l'âme, connaître le corps. Et on prend une méthode particulière pour connaître le corps, causalité matérielle, et une méthode philosophique pour connaître l'âme. La science biologique me fait connaître la cause matérielle, les dispositions. Il ne peut pas faire connaître l'âme, acte du corps. L'âme est l'acte du corps. Si l'âme est l'acte du corps, l'âme est donc source d'intelligibilité pour tout mon corps. C'est très beau ça. point de vue de la causalité matérielle. La manière dont on décrit, par exemple, l'embryon. Évidemment, il y a des tas de connaissances qu'Aristote n'avait pas et ne pouvait pas avoir. Il y avait une connaissance qu'Aristote avait et qu'on a laissé tomber. La connaissance de l'âme. Qui actue toute ma vie et qui actue toutes mes opérations biologiques et qui leur donne leur signification profonde et qui leur donne leur finalité. Pourquoi je mange? Pourquoi je dors? Pourquoi je marche? Et ainsi de suite, la finalité. On ne regarde plus que le comment. N'oubliez jamais cette phrase d'Auguste Comte. Ce sont les enfants qui cherchent la finalité. Ce sont les théologiens qui cherchent la finalité. L'homme sérieux, positiviste, l'homme savant ne cherche plus que le comment et non plus la finalité. Or, c'est la finalité qui donne le sens ultime et dernier. C'est l'âme. Me donne le sens dernier de ma vie humaine et qui me fait comprendre ma finalité. Donc, l'âme est bien la quiddité du corps. Mais dit comme ça, c'est assez brutal, hein, bon, c'est un coup de poing violent. Et c'est très beau. Alors, il faut réfléchir là-dessus. L'âme est l'acte du corps, l'âme est la finalité, ce qui donne le sens plénier de mon corps, le sens plénier de ma vie humaine, c'est mon âme. Mon corps est pour mon âme et non pas mon âme pour mon corps. C'est ça la finalité. Ils sont deux. Et ça, c'est très important pour ceux qui sont saisis par le point de vue de la réincarnation. C'est très curieux de voir que dans la mesure où on oublie la finalité de l'homme, on est tenté par la réincarnation. Parce que c'est très vieux, la réincarnation. C'est même très intéressant. Alors, est-ce un moutos? Est-ce un logos? Est-ce que la réincarnation, c'est un mythe? Ou est-ce que c'est une réalité profonde? Intéressant, ça. On a quelquefois des expériences assez curieuses. Je prends rarement le taxi, surtout avant. Et une fois, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit que anciennement, il avait joué sur le théâtre d'Athènes. Alors je me suis mis à parler grec. Et bien ça, j'ai complètement oublié. Il dit, sans mieux, tant mieux. Ça m'intéressait de retrouver un grec. J'attendais qu'il me dise qu'il soit Aristote ou Platon. Ça va être encore mieux. Ça, c'est la boutade. Mais pour certains, la réincarnation est quelque chose de réel. Qu'est-ce qui permet de dire que la réincarnation est un mythe? Premièrement, il n'y a pas d'expérience réel. On peut avoir l'impression de retrouver un paysage qu'on a connu. Alors ça, c'est tout le problème de la mémoire, de la réminiscence de Platon. Mais c'est très difficile. objectivité parfaite. Je crois que si on réfléchit sur l'unité profonde de l'âme et du corps, une unité substantielle, mon âme est acte de mon corps. Mon âme actue, finalise. C'est dans la mesure où on saisit que l'âme est acte et fin de mon corps que je vois que la réincarnation est impossible. Parce que si mon âme est vraiment l'acte de mon corps et qu'entre mon âme et mon corps il y a une unité substantielle, cette unité substantielle ne peut pas se répéter. Elle est indivisible. L'expérience que j'ai de mon je suis montre qu'entre mon âme et mon corps, il y a une unité substantielle. Mon corps n'est pas un avoir. Mon corps fait partie de mon être. Et partie intime de mon être. Dans mon je suis, je peux dire que mon corps fait partie de mon je suis. Il n'est pas extérieur à mon je suis. S'il y avait réincarnation, mon corps ne serait que mon avoir. Mon vêtement est mon avoir, il n'est pas mon être. Je peux changer, parce que c'est l'avoir. Alors toute la question au plan philosophique se ramène à cela. Est-ce que mon corps est mon avoir? Est-ce que mon corps est mon être? Si je réfléchis profondément sur mon je suis, je peux dire que mon corps fait partie de mon être. Il est mien. Il est aussi un certain avoir, dans la mesure où je l'utilise. Mais je l'utilise comme une partie de mon être. Je ne l'utilise pas comme un outil, comme un avoir séparé de mon être. Il y a donc un lien très particulier entre mon corps et mon être. Et c'est ce lien très particulier entre mon corps et mon être qui me permet de comprendre, de saisir que ce lien ne peut pas se répéter. Parce que mon corps individualise mon être. Mon corps fait de moi un être unique, individué. Et donc, il ne peut pas être quelque chose qui se sépare de moi et que je m'unis à autre chose. L'exemple du cercle que prend Aristote. Il y a un cercle qui est fait en airain, le cercle d'airain. Il y a un cercle qui est fait en métal. Il y a un cercle qui peut être fait en bois. Le cercle peut se réincarner, si j'ose dire, en bronze, en bois, en fil de fer, en corde, c'est toujours le cercle. Mon âme n'est pas une idée artistique liée à un corps de bronze, à un corps d'argent, existe avant et elle est comme une idée artistique qui se trouve réalisée dans un corps plus ou moins précieux, suivant que la réincarnation se fait plus ou moins parfaitement. Alors il ne faut pas oublier ceux qui aiment beaucoup, beaucoup Platon, n'est-ce pas, qui chérissent Platon. Alors, souvent, les étudiantes aiment beaucoup Platon. Alors pour secouer un peu cet amour idolâtre de Platon, je dis, n'oubliez pas, hein, quand un homme a une vie mauvaise, il se réincarne en une femme. Et quand une femme a une vie dissolue, elle se réincarne dans un animal. Vous voyez le divin Platon, hein ? Alors ça, il le dit textuellement, c'est sa doctrine. Donc, la femme, pour Platon, n'a pas la même nature que l'homme. Aristote, et c'est ce qu'il doit vous faire aimer Aristote. Aristote est le premier qui réhabilite la femme en disant que l'homme et la femme ont la même nature. Et donc, il peut y avoir entre l'homme et la femme une véritable amitié. Tandis que pour Platon, il n'y a pas de véritable amitié entre l'homme et la femme. La véritable amitié, c'est entre hommes, uniquement. C'est très important de se rappeler ça, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on retourne à Platon. On essaie d'établir que l'homophilie ou le mariage doit être considéré exactement de la même manière. Ça, c'est Platon. Et même, Platon irait un peu plus loin. Ce qui, la plupart du temps, existe, c'est que l'homophilie est la seule véritable amitié. Tout ça repose sur une vision de l'âme et du corps. Oui, ça a d'immenses conséquences. Ce qu'on voit, savoir ce qu'est l'âme et le lien entre l'âme et le corps est une chose capitale. Ça a des conséquences énormes au point de vue éthique et au point de vue politique. Entre l'homme et la femme, il y a une véritable amitié. Il peut y avoir une véritable amitié. C'est-à-dire un don de soi. Entre hommes, il peut y avoir une véritable amitié. Sans impliquer un don des corps. Parce que si l'amitié touche quelque chose de très profond en nous, notre finalité, on comprend que l'amitié est avant tout spirituelle. Elle est sensible, elle implique une union profonde dans la sensibilité. C'est le propre de l'amitié. Mais elle n'implique pas nécessairement le don des corps. Donc l'argument le plus fort contre le mythe de la réincarnation qui renaît. Et il y a quelque chose de très curieux dans ce mythe, parce qu'au fond, c'est qu'on a soif d'immortalité. Or, on ne découvre plus l'immortalité dans l'âme spirituelle. Alors, on veut la redécouvrir d'une autre manière. Dans le fait que l'homme, dans son âme, peut se réincarner. La femme, dans son âme, peut se réincarner. est-ce que c'est uniquement le passage d'un vêtement à l'autre vêtement? Alors, quand on change de saison, on n'a pas la même tunique.